L'agroéconomiste Claude Lafleur le répétait il y a quelques jours à peine à l'occasion de la troisième rencontre préparatoire au Sommet québécois sur l'alimentation qui aura lieu à l'automne. Il disait « Nous sommes au Québec plus diversifiés qu'ailleurs, nos agriculteurs sont plus jeunes et la place des petites entreprises et des fermes familiales est plus grande ici qu'ailleurs au pays. Aussi, nous apparaissons être un peu à contre-courant en maintenant une agriculture, un secteur agroalimentaire plus diversifié qu'ailleurs, et cela dans un monde où tout pousse à l'uniformisation. Bien sûr, il faut penser volume, car c'est par le volume que l'on abaisse les coûts des produits essentiellement. On y réussit au Québec avec des livraisons, par exemple, de viande de porc, d'excellente qualité, un peu partout sur la planète. Mais il faut aussi penser diversité, créneaux, terroirs, niches et haut de gamme. Nous avons de très bonnes assises en ces matières. Pensons fromage, petits fruits, alcool, vin, cidre, sirop, etc. Dans le fond, ce que je viens de dire, nous le savons depuis longtemps et nous avons toujours de la difficulté à donner une nouvelle vitesse de croisière à notre agroalimentaire. Pourquoi une nouvelle vitesse de croisière? Parce que malgré nos forces, nous ne semblons pas encore avoir trouvé la façon de vraiment profiter pleinement d'une demande mondiale en croissance assez rapide et aussi parce que nous laissons des concurrents venir occuper trop de place sur nos propres marchés. Aussi, il ne faut pas penser que le simple fait de bloquer ou restreindre l'accès à notre marché sera notre planche de salut, et encore moins un gage de prospérité. Il faut plutôt tout mettre en œuvre pour produire ce que nous avons le potentiel de fournir au marché. Par exemple, les tomates. Imaginons que nous bloquions les livraisons mexicaines. Nous serions plus mal pris qu'autre chose car notre capacité de production, en serre particulièrement, est encore loin d'être optimale. Dans ce contexte, on peut aussi s'intéresser à la gestion de l'offre. Trop longtemps, elle a été le seul outil de développement pour les secteurs du lait, des œufs et de la volaille. Bien sûr, on a vu apparaître une multitude de produits nouveaux, des fromages, des yogourts, entre autres. Mais la société québécoise, bien prête à ce que les agriculteurs conservent un mécanisme de protection comme celui-là, n'en souhaite pas moins que continue de s'étendre la gamme des sources d'approvisionnement pour leur alimentation. Et justement, si l'on souhaite conserver ces attributs majeurs de notre modèle agroalimentaire qu'est la diversité, il faut l'encourager, il faut la stimuler. Une idée, par exemple. Ces jours-ci, les producteurs de volailles du Québec et du Canada discutent de l'attribution de quotas supplémentaires. Les détenteurs de quotas de permis de produire, en fait, pourraient recevoir 6, 7, peut-être 8 % de plus de quotas parce que la consommation de volailles continue d'augmenter au pays. Alors que de nombreuses petites ou très petites entreprises agricoles souhaitent pouvoir produire de la volaille, pourquoi une part de ces nouveaux quotas n'irait-elle pas à ces petites fermes? Les petits agriculteurs voudraient être autorisés à produire sans quota, jusqu'à 1000 ou 2000 poulets, par exemple, comme cela se fait dans d'autres provinces. Plutôt que du sans quota, on pourrait par exemple donner un peu de quota. On sentirait une certaine ouverture, une certaine volonté de faire évoluer la formule. Si on acceptait, chez les détenteurs de quota, de céder une mince partie des nouveaux volumes de production à des fermes de petite envergure. Ainsi pourraient se développer quelques marchés régionaux pour des volailles élevées différemment et susceptibles de satisfaire une demande réelle pour de telles viandes. L'impact sur les gros producteurs serait par ailleurs tout à fait marginal. Mais, me disait un producteur, donner du quota à de petites fermes, c'est comme nous demander d'accepter de se faire couper un bras. On a vu depuis quelques années des initiatives de prêts de quotas à la relève, d'allocations limitées de droits de produire, mais c'est encore très mince. Les attaques contre la gestion de l'offre sont constantes. Encore ces jours-ci, l'Institut économique de Montréal, ou le conservateur Maxime Bernier, ou le professeur Sylvain Charlebois, décrit ce système. Et cela sans compter Donald Trump, celui que l'agroéconomiste Claude Lafleur appelle le clown en chef, qui a dit et répété qu'il fallait que le Canada abolisse la gestion de l'offre. Prenons les devants. Modernisons cette gestion de l'offre avant que d'autres se chargent de l'amputer, voire de la faire disparaître. Il faut des mesures de protection pour notre agriculture. La gestion de l'offre en est une. Tout comme la sécurité du revenu agricole, l'ASRA dans d'autres productions, ou l'assurance récolte. Mais, encore une fois, on ne pourra donner au Québec une véritable politique bioalimentaire en ne faisant que protéger ces mesures de soutien et de protection des agriculteurs. Il faut une politique globale qui donne des orientations et qui coordonne les actions, de l'État particulièrement, pour assurer que se développe le secteur en conservant sa couleur propre, son originalité et en accroissant sa diversité. Un exemple, des éleveurs de bovins travaillent très fort actuellement à développer la filière Bœuf Québec, du bœuf certifié québécois. Enfin, je dirais. Mais ils peinent à obtenir un peu d'aide pour un projet très structurant pour notre agroalimentaire. Les plans conjoints de production et de mise en marché à travers lesquels est gérée la gestion de l'offre constituent une autorité incontournable dans l'agroalimentaire québécois. Certains croient qu'il faudrait plus de souplesse d'application et un peu plus de collégialité avec les autres partenaires. C'est aussi ce que pensent plusieurs personnes à propos du pouvoir de l'UPA dans le secteur. Le quotidien La Presse écrivait justement cette semaine qu'un rapport de l'Institut sur la gouvernance faisait état de présence inacceptable de représentants de l'UPA dans des instances décisionnelles comme le conseil d'administration de la Financière agricole. L'Institut sur la gouvernance estime que les intérêts de l'UPA ne concordent pas avec ceux des contribuables. Ici Lionel Levac. La future politique bioalimentaire du Québec, donc, devrait-elle aller jusqu'à revoir la gouvernance du secteur agroalimentaire? Ah, c'est curieux. Après 10 ans de recul, on croirait se retrouver en plein rapport Pronovo sur l'avenir de l'agriculture et l'agroalimentaire québécois. À bientôt.